Or, nos véhicules, nos experts. Certaines conditions s'appliquent.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse, des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
La preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Et si tu crois que
Des invités percutants.
Ben oui, petit coup de sympa.
Oh, oui.
Commence le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Capricorne.
Je suis vierge.
Ça, on savait.
Facile.
une radio spéciale. Boulevard 102.1, la radio spéciale. Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir, le soir, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Actuellement sur Québec, ben ça n'a pas changé, hein. C'est un peu pluvieux à certains endroits, puis ce sera ça pour une majeure partie de la soirée. On parle d'un minimum de 8 pour ce qui est de ce soir, des averses pour demain avec un maximum de 12. Vendredi, samedi, dimanche, c'est que du beau temps selon Environnement Canada. On va essayer de leur faire confiance, maximum de 17 pour ce qui est de samedi. Maximum de 16, pardon, pour ce qui est de samedi, 17 pour vendredi. Et si je termine la semaine dans le bon ordre, eh bien, dimanche, le 15 octobre, ce sera une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 15. Puis à plus long terme, ben, ce serait le retour des nuages maximum de 12. Salutations aux camionneurs et camionneuses qui parsèment nos routes. Salutations aux familles des camionneurs et camionneuses et aux gens qui aiment bien les camionneurs et camionneuses. Puisque ce soir, on a encore une fois le plaisir de jaser avec la belle gang de Truck Stop Québec, Benoît Therrien, qui est dans ses studios chez Truck Stop Québec. Salut Ben!
Comment ça va, Yannick Marceau?
Ça va très bien, ça va très bien. On passe du bon temps. Les camionneurs nous transmettent de l'information. Hier, j'ai passé sur les ondes de Truck Stop Québec, puis des camionneurs qui m'ont écrit en disant qu'ils aimaient bien notre collaboration, puis qu'actuellement, sur les routes du Québec, il y avait énormément de chevreuils et d'orignaux. Puis d'ailleurs, j'en parlais sur l'heure du midi avec Maxime Dubois. On tente de nous prévenir là, qu'il y a une bonne présence de grande faune sur les routes du Québec. Il faut juste spécifier que c'est nous qui avons pris leur territoire et non le contraire, ce qui fait en sorte que la présence d'orignaux, de chevreuils sur nos routes est juste normale, mais elle n'est pas souhaitée et c'est extrêmement dangereux ce qui peut arriver si on rentre dans un chevreuil ou un orignal. Puis, tu sais, je regarde sur un article de Radio-Canada ici, Abitibi-Témiscamingue, on donne des statistiques sont quand même assez impressionnantes. Là. Pour ce qui est de 2020 et 2022, on parle d'une moyenne annuelle de presque 7000 accidents routiers par année qui impliquent la grande faune, donc des chevreuils et des orignaux. Pour ce qui est des camionneurs et camionneuses du Québec, toi-même qui as parcouru les routes au Canada et aux États-Unis, c'est quoi vos mesures d'urgence quand vous croisez ces grandes faunes-là? Je ne sais pas, moi, un orignal ou un chevreuil, vous faites quoi avec le camion? Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, c'est dangereux.
Bien, au départ, tu sais, quand on parle de 6900 quelques accidents, collisions avec des animaux, ça, c'est ceux qui sont déclarés, c'est ceux que les gens ont volontairement déclaré ou il y a eu peut-être un rapport de police. Imagine le nombre à cette heure de gens qui n'ont jamais calé la shot, qui ont rentré d'un chevreuil. Un orignal, d'après moi, t'appelle à toutes les fois. Là.
Ouais.
Mais un chevreuil, pour le dommage des fois que ça peut causer, oui, ça cause dommage, oui, ça peut défoncer un radiateur, mais jamais comme l'orignal. L'orignal en tant que tel, c'est à peu près, à moins que ce soit un jeune, là, mais c'est la hauteur d'une vache ou d'un cheval. Là, t'sais. Fait que lui, là, il pardonne pas. Puis quand vous êtes un automobiliste, ben on sectionne les jambes, puis là, ben ce qu'il fait, c'est qu'il se roule dans votre windshield, puis là, ben il peut même aller jusqu'à rentrer dedans par l'impact. Un camion, ben c'est dans le radiateur que ça se fait, le liquide de refroidissement tombe à terre, tu peux plus rouler, tes poignets là, ça prend une remorqueuse.
Mais Ben, avec un véhicule comme le mien, je pourrais me permettre de donner un petit coup de volant, mais vous autres, vous transportez de l'équipement, donner un coup de volant avec un camion, c'est jamais la meilleure des idées, là. Mais surtout, c'est l'hiver.
Oui. Ben, dans le fond, effectivement, puis tu as raison, donner un coup de volant pour un camion, ça pourrait risquer de te faire ramasser chaque côté du chemin. Je sais que c'est plate, puis il y en a qui vont dire c'est pas le fun à entendre, mais la collision est peut-être nécessaire dans un cas comme ça, puis il faut passer par là. C'est pas toujours le fun là, d'aller voir, constater là, un animal que tu as frappé, ça m'est déjà arrivé, et là, ben, tu vas voir, tu regardes où est-ce que tu as eu du dommage, tout ça. Est-ce que l'animal... Puis tu sais, j'aimerais ça peut-être m'adresser aux gens qui percutent ces animaux-là. Advenant le cas que vous avez percuté un chevreuil, un orignal, et qui est dans le bord du fossé, puis qu'il est mal en point, mais il est encore vivant, là. Appelez les forces de l'ordre, ils vont venir achever...
Je pense que c'est Québec 511, le numéro de téléphone qu'on doit... C'est ça, hein? C'est Québec 511 pour mentionner qu'effectivement, on a eu un accident avec un chevreuil ou un orignal, puis c'est pour ne pas le faire souffrir. C'est une super de bonne raison d'appeler puis de le déclarer, là.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est pas le fun, là, c'est un accident, mais les camionneurs sont souvent victimes de ça, roulant de nuit. Ces animaux-là se promènent de nuit. Est-ce que la chasse actuellement, Yannick, est peut-être une des sources pourquoi ces animaux-là se retrouvent partout, même si c'est la saison de rut, là?
Ouais, ben étant un homme, je sais ce que ça peut représenter, la saison de rut, puis ça nous fait prendre des risques, effectivement. je voterais pour ça, moi. C'est la saison du rut qui fait en sorte que les orignaux et les chevreuils prennent des risques que normalement, ben, ils ne prendraient pas. C'est pour aller voir ce qui se passe l'autre bord de la clôture.
Ben, c'est parce que tu as de l'expérience là-dedans. Est-ce que tu sors de la ville de Québec, toi, quand tu es en rut? Ou... Est-ce que tu vas prendre des marches ailleurs, Donnacona, ou tu sais, ça arrive sud de Québec, ou tout ça. Mais effectivement, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Les animaux, ben si vous allez au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, il y a certaines parties là, des autoroutes au Québec où on a mis des clôtures électriques.
Oui, dans le parc. Je ne sais pas si c'est électrique dans le parc, mais quand il y a eu l'aménagement de l'autoroute du parc, là, ils ont fait des endroits où c'est plus sécuritaire. Mais encore là, il y a des camionneurs et camionneuses qui disent « Non, on en croise quand même encore. »
Oui. Ben, en fait, c'est que la clôture a peut-être quoi, une cinquantaine, soixantaine de pouces de haut. Puis, il y avait ça sur l'autoroute 55 entre la 20 et Trois-Rivières, jusqu'à temps qu'on l'aménage différemment. Il y avait des bouts où c'était électrifié, ce qui empêchait le chevreuil ou l'orignal de vouloir essayer de traverser la clôture. Mais j'étais dans le Nouveau-Brunswick il n'y a pas tellement longtemps. Eux autres n'étaient pas électrifiés, mais est quand même assez haute. Sauf que un orignal qui s'accote dedans tant qu'à moi, là, s'il veut, il va forcer un peu. Mais on a fait des entrées à peu près, je dirais, au demi-kilomètre, là, où il y a des entrées. C'est comme des espèces de broches qu'on a mis où que quand l'orignal va pousser dedans, ça va ouvrir. Mais qu'à l'envers, bien, ils peuvent pas rentrer, là, tu sais. Mais effectivement, un arbre tombe, bien, il plie à la clôture. Fait que là, bien, les animaux étant ce qu'ils sont, bien, ils vont traverser là. Puis on dirait que c'est pas marqué nulle part, mais eux autres, ils avouent la sortie, puis ils se disent « on y va ». Fait que c'est toujours mieux de prévenir. Puis souvent, quand on roule en camion de nuit, puis à un moment donné, tu vois deux yeux quelque part, tu te dis « bon, on m'a slaqué ». Ça y est, il y avait deux, trois chevreuils dans le côté de la route. Puis aller jusqu'à l'hiver, là, on dirait que... Même l'hiver, on dirait qu'ils ont comme un goût de salé. Fait qu'ils y allent sur le bord du chemin. C'est du calcium, hein? Fait qu'on dirait qu'ils goûtent un peu à ça. Puis après ça, ben, il s'en retourne un peu dans le sapinage et tout ça. Mais à bord de forêt où il y a bien du sapinage, méfiez-vous, c'est clair, net et précis que vous allez en voir.
Ouais, mais tu vois, dans la transition entre l'automne et l'hiver, moi, ce que j'ai croisé dans les dernières semaines, entre l'été et l'automne, pardon, c'est ce que j'ai croisé dans les dernières semaines, c'est des poules de route, là, les grosses poules.
Les dindons sauvages.
Les dindons sauvages. J'en ai vu un petit cheptel là, dans le secteur de la 73. Il n'était pas sur la route directe, il était sur le côté de la route, mais ça aussi, là, quand ça, tu sais, ça vole pas bien, là, mais c'est capable de voler. Quand ça vole, là, ça peut rentrer facilement dans le véhicule si tu la frappes. Là.
Il y a des vidéos de camionneurs qui se sont fait défoncer le pare-brise en avant par un dindon sauvage. Écoute, si tu roules 100 km, puis cette espèce de moineau-là, je vais dire un moineau, mais c'est assez gros.
C'est des grosses poules.
Ça doit peser une couple de livres, mais à 100 km, c'est un projectile. Ça rentre dans le camion, toi, puis ça fait du dommage. Puis... De plus en plus, on a... quand j'ai commencé dans le camionnage, là, Yannick, là, puis qu'on était sur la côte Est, puis on se disait, ah, wow, tu sais, c'est donc bien beau, ces espèces de dindons sauvages-là. Puis jamais on aurait cru un jour voir ça arriver ici au Québec. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Même ici, là, pas bien loin, là, je pourrais te montrer un champ, je pourrais le filmer. Il y en a peut-être une quinzaine, ils sont toujours là. C'est leur spot, ils vivent là. Puis il y a beaucoup de sapinage, fait que j'imagine qu'ils vont se cacher là un peu l'hiver. Puis ils rentrent dans le terrain à côté, puis ils mangent, ils grignotent. Puis souvent aussi, à ce temps-ci, il y a beaucoup de récoltes de soya et de blé d'Inde qui se font par des agriculteurs. Est-ce qu'ils en laissent un peu, puis ces animaux-là sont friands de ces céréales-là, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, on a un peu un autre, un dindon sauvage.
Hey Ben, je te pose une question comme ça. Sais-tu comment qu'un orignal trouve sa cousine quand il la croise par hasard dans le bois?
Non.
Il la trouve pas pire.
OK, elle est bonne.
Ouais, oui, elle est bonne certaine, Mais c'est ça. Cela dit, que vous soyez automobiliste ou chauffeur de camion ou chauffeuse de camion, faites attention sur nos routes présentement. C'est le temps du route, c'est le temps de la chasse. Comme Ben l'a dit tantôt, s'il y a des chasseurs dans le bois, ben, les orignaux, les chevreuils vont tenter de s'éloigner le plus possible de ces gens-là. Puis ben, ça fait en sorte qu'on les croise sur nos routes. Donc, faites attention. On veut vous voir vivants et en bonne santé, les amis. Je ne sais pas si tu as lu le dossier, le Journal de Québec de ce week-end. Moi, j'ai lu le Journal de Québec samedi qui nous préparait à ce fameux dossier-là des gens qui ont été malheureusement victimes de la route, donc des piétons qui auraient été frappés par des véhicules. Mais moi, j'ai trouvé ça assez hallucinant de lire ça. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je sais que toi aussi, tu les as mis sur les réseaux sociaux pour la belle gang de Truck Stop Québec. Je trouve ça hallucinant qu'on entretienne une haine envers les propriétaires d'automobiles, que ce soit des VUS ou encore que ce soit des camions, comme les gars de la construction qui ont besoin de Ford F-150, pour ne pas le nommer, pour travailler. Que le Journal de Québec embarque là-dedans, que Québécois embarque là-dedans, ça fait juste essayer d'entretenir une haine envers les propriétaires de VUS. Puis j'ai trouvé ça hallucinant. Puis ce que j'ai mis sur ma page Facebook, Ben, c'est quelque chose de très banal pour certains, mais pour d'autres qui, comme moi, voient un peu où le Journal de Québec veut aller, c'est hallucinant, tu sais. Puis je te lis là, le début de l'article, là, « VUS contre piétons ». La croissance fulgurante de la taille des véhicules circulant sur les routes du Québec transforme les VUS et autres camions en vraies machines à tuer. Les usagers les plus vulnérables, les piétons, font les frais de cette tendance. C'est comme s'ils nous considéraient comme des machines à tuer, parce que la plupart des gens ont des VUS et ou des camions. Ceux qui ont les petits véhicules, je vous salue, là, si ça correspond à vos besoins, c'est correct. Mais moi, j'ai un Wrangler, ma conjointe a un VUS, puis pourquoi? Parce qu'on est 6. Puis quand on est 4 dans le char ou quand on est 5 dans le char, faut faire de la place. Puis quand on transporte des choses, fait qu'on a des VUS, mais la dernière des affaires qu'on veut, Ben, c'est de tuer des gens, là.
Yannick, cet article-là là, a rendu bien des gens frustrés, premièrement, à l'encontre du ou de la journaliste, parce que je n'ai pas vu c'était qui. La croissance fulgurante de la taille des véhicules, c'est des machines à tuer, OK? On parle de camions légers, pick-up, là. On parle de VUS. Et aujourd'hui, en 2023, à moins que je me trompe, là... c'est plutôt rare qu'on n'a pas un genre de famille reconstituée ou d'avoir un ou deux enfants qu'on doit aller porter au hockey, au soccer, au badminton, n'importe quoi, et que le véhicule est plein. Puis les VUS, quoi qu'en pense monsieur ou madame journaliste qui a écrit ça, c'est attaqué directement et je pense que c'est à cause qu'on va taxer ces véhicules-là d'être énergivores. Fait que ça prend une raison pour les sortir de la route. Est-ce qu'ils sont plus dommageables pour les piétons que la petite Toyota Yaris de 2 ou 3 places ou 4 places ou la Smart, comme je connais quelqu'un qui a une Smart, c'est une 2 places? C'est-tu plus dangereux, moins dangereux quand tu frappes un piéton, que ce soit un VUS, que ce soit la Chevette 72, que ce soit un pick-up? C'est sûr que le piéton l'aura pas facile, mais il n'y a personne, comme tu dis, qui veut absolument dire, bon, ben, il y a un piéton qui dépasse d'un pouce de la chaîne de trottoir, ouais, et je vais tout faire pour le ramasser.
Il n'y a personne qui fait ça. Aujourd'hui, je veux tuer quelqu'un, ça arrive pas. Mais, tu sais, on s'en est parlé, toi et moi, hier, sur les ondes de Truck Stop Québec. J'en ai parlé un petit peu en début de semaine. Puis, je tenais à en jaser dans Marceau le soir avec toi. Tu sais, là, j'ai pas le quotient d'un astronaute, là, quoi qu'il y en a qui vont dire Marc Garneau a déjà été astronaute. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, au niveau mathématique, là, j'aurais pas le niveau de mathématiques pour travailler à NASA, mais je peux te dire une chose, par exemple, Ben, tu prends toutes les propriétés, tu regardes les statistiques, OK, et si les statistiques sont vraies, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de véhicules VUS qui tuent des piétons, pas intentionnellement, mais c'est des accidents, bien, sache que ça va être les mêmes statistiques si les propriétaires de VUS s'achètent des voitures un peu plus petites qui ne sont pas considérées comme étant des VUS. T'sais. À partir du moment où... Tu sais, un accident, c'est un accident, là. Que tu fasses un accident de char à 100 km/h, je sais pas, moi, tu rentres à 80 km/h dans un piéton avec un VUS ou avec un véhicule normal...
En moto, Yannick.
Tu vas
en
le
moto,
tuer. C'est
ça. Même en moto, il va avoir un impact puis il va avoir des blessures. Mais là où je veux peut-être emmener la réflexion des gens, ça veut dire qu'il y a quelques années, on nous disait d'avoir des plus petits véhicules en raison qu'ils sont beaucoup moins énergivores que les SUV, que les camionnettes, pick-up et compagnie. Puis les fabricants, ben c'est des gens qui sont là pour vendre. Le marketing est là en arrière. Puis ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait fabriquer des VUS, des camionnettes, qui vont être beaucoup moins énergivores. Puis on a emmené ça dans le portrait automobile nord-américain. On a des SUV qui consomment du 8.5 litres au 100. J'ai un pick-up ici. Un pick-up, comment ça consomme? Il y en a qui vont vous dire 15-16 litres au 100. Je suis à 7.8 litres au 100. Je ne suis pas énergivore. Je ne suis pas quelqu'un qui va signer sa carte pour être environnementaliste et tout ça. Je pense que je fais ma part, mais j'ai besoin d'un pick-up. La roulotte, quand je vais faire des festivals ou quand je vais dans des événements, ben j'en ai besoin.
Oui, tu transportes. Tu sais, t'as une entreprise, tu transportes ton stock.
J'ai pas le choix.
Ouais.
Est-ce que mon petit Toyota Yaris piné sur la roulotte serait capable de faire 8 km? D'après moi, il tombe mort au bout de 8 km. Fait qu'à un moment donné, il faut peut-être choisir nos batailles. Et si tu regardes, OK, il y a un examen de conscience qui a été fait par la revue Protégez-vous en 2021, où on disait qu'il y avait 52 % des utilisateurs qui choisissaient, lors de l'achat d'un véhicule, un VUS ou un modèle sport utilitaire ou une camionnette. 52 % des gens. C'est sûr que si j'ai pas de roulotte, j'ai pas rien. Peut-être que je vais opter pour un plus petit véhicule, ayant peut-être pas besoin. Mais à 7,8 litres au 100, j'aimerais ça me comparer avec le petit véhicule qui est supposé pas être énergivore, puis que lui, ici, on pourrait faire un test de collision sur un mur de ciment, là, puis mettre un mannequin, puis d'après moi, il n'y a personne qui survit autant par la camionnette que j'ai que par le petit véhicule. Si tu fais une recherche, avant qu'on se parle tantôt, Yann, j'ai dit, moi, toujours bien faire une recherche parce que je cherchais le journaliste ou la journaliste qui avait fait ça, fait une recherche simplement sur VUS contre piéton et regarde qui sort plein de nouvelles. Et ça ne date pas d'hier, parce qu'on a des nouvelles qui datent de 2019, on parle de 2021, on parle, tu sais, puis il y a comme un genre de coïncidence, moi, qui m'apparaît un peu crasse que... Plein de médias disent, on va sortir un article concernant les maudits VUS, les maudites camionnettes, pick-up, puis même que, tu sais, Équiterre écrivait pas plus loin qu'il y a une couple de mois, j'imagine, là, évaluez vos vrais besoins. Un VUS plus coûteux et polluant qu'une voiture représente aussi un danger pour la sécurité. Avant d'opter pour un VUS, évaluez l'impact de ce choix. Moi, là, Yann, là, que tu t'achètes le dernier cri en termes de la plus petite voiture, qu'elle soit électrique, hydrogène, qu'elle soit au propane, à l'essence, au diesel, bien, moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Je me dis, vive et laissez vivre. Puis quand on est rendu qu'on va vouloir vous inculquer que vous êtes des mauvaises personnes quand vous allez avoir un VUS... je suis pas capable de comprendre cette situation-là.
Ouais.
Puis, tu sais, oui, ça prend peut-être un peu plus de métal à fabriquer ou d'aluminium ou de plastique, mais une fois qu'on a un VUS, selon moi, on est bon pour un bout. Puis, à moins que je ne m'abuse, là, on n'a pas ben ben de 12 mois par année du 20 degrés Celsius, puis qui fait chaud, puis tout ça. L'hiver, là, avoir un véhicule 4x4, 4 roues motrices, 4-wheel drive, appelez-les comme vous voulez, moi, je pense que c'est nécessaire au Québec, puis qu'on a besoin de tout ça simplement si on veut se rendre du point A au point B. La ville de Québec, l'hiver passé, avait des zones un peu mal déneigées. Bien, si on avait un 4x4, ça paraissait moins. Dans ma région ici, là, si j'ai pas de 4x4, ça se peut que le matin, en essayant de sortir de l'entrée, ben, je sois obligé de m'y prendre à quelques fois. Mais 4x4, je sors, puis qu'il y a eu un banc de neige, j'ai pas de problème. Puis même dans la région, il y a de la poudrerie. Fait que, t'sais, arrêtez donc de nous dire quoi faire, quoi penser et comment gérer notre portefeuille. Si vous avez besoin d'un SUV, achetez-vous-le. Si vous n'en avez pas besoin, faites ce que vous voulez. On va être amis pareil.
Ben oui, mais de mettre l'un contre l'autre, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis il y avait un article qui m'avait marqué, Ben. Puis j'invite l'auditeur à aller voir, les auditeurs qui nous écoutent présentement, à aller voir cet article-là. C'est titré comme ça. Je sais que ça tombe sur Québécois, ça doit être un hasard, là. Mais les VUS sont-ils plus dangereux pour les piétons? On se pose cette question-là. Puis là, on mentionne qu'il y a plusieurs collisions mortelles qui impliquent des piétons qui ont été causées par des VUS au cours des derniers mois. C'est une situation qui était déplorable. Puis c'est vrai, c'est déplorable. On veut pas que les piétons se fassent fesser. Mais je te rappelle que la question, c'est les VUS sont-ils plus dangereux que les piétons? Moi, je m'attendrais à voir, je sais pas moi, quelqu'un qui a compilé des statistiques puis qui a fait des tests avec des tests d'impact VUS versus piétons. La journaliste, sans nécessairement nommer son nom, là, la journaliste a été voir quelqu'un qui est d'un organisme. Okay? C'est la directrice générale de Piétons Québec. Elle s'appelle Sandrine Cabada de Guény. Et elle dit qu'elle est d'avis que oui. Oui, elle est d'avis que oui, parce que les pick-ups sont plus hauts. Ça va blesser davantage les piétons aux organes vitaux, selon elle. On parle pas d'une spécialiste, là. On parle d'une directrice générale de Piétons Québec. Je veux dire, la journaliste s'attendait à quelle est-ce de réponse, tu sais, quand tu poses une question de même à quelqu'un qui milite contre les véhicules?
Tu sais, Yannick, là, il y a quelques années, l'industrie du camionnage s'est fait taxer, surtout à Montréal, là, d'enlever la vie à plusieurs piétons. Pourquoi? Parce qu'une remorque, c'est haut. Et quand on a installé les jupes latérales, ce qui était totalement un élément pour contrer l'effet physique de l'air, c'était d'enlever un peu notre empreinte carbone et d'être plus aérodynamique, bien, les gens se sont dit, « Hey, wow, l'industrie s'est modernisée. Ils ont mis ça pour protéger, pour ne pas passer en dessous de la remorque. » Je vous dis un fait, là, accotez-vous même pas d'un jupe latéral, là, cette espèce d'affaire-là qui est entre le plancher de la remorque et le sol, là, parce que c'est en fibre de verre, ça plie à peu près à rien, c'est comme un crazy carpet, ou à peu près, là, un petit peu plus rigide, puis vous allez passer par pareil en dessous. Que ce soit un petit véhicule là, qui va vous traîner sur une longueur X, ou la camionnette que vous pourriez, mettons d'un coup, vous faites frapper, vous accrochez au marchepied, ou vous accrochez en dessous, je vais opter pour la camionnette qui... Je vais avoir un bon bout pour me tenir à quelque part parce qu'elle est plus haute. Oui, c'est nécessaire. Est-ce qu'il va y avoir plus de décès parce qu'il y a des pick-up? Non. Est-ce que les Yaris de ce monde vont faire moins de décès? Non. Est-ce que les motos... Tu sais, est-ce qu'il y a eu une compilation de combien de piétons motos se sont ont eu des impacts ensemble? Je sais pas. La journaliste n'a pas fait ce travail de fond.
Elle est allée voir la directrice générale de Piétons Québec qui, je ne sais pas dans quoi elle a étudié, probablement une ancienne étudiante de l'UQAM qui a étudié en philosophie ou en journalisme. Là. C'est tout le temps ça. Mais tu sais, je trouvais que l'article était ridicule. Puis quand j'ai vu l'article en fin de semaine qui disait que les propriétaires de VUS, ben, leurs véhicules, c'était de véritables machines à tuer, je trouvais ça complètement fou, Ben. Puis je tenais à m'entretenir de ça avec toi. Puis tu sais, je serais curieux de savoir... par texto qu'est-ce que les auditeurs pensent de ces articles-là, si les gens ont consulté ces articles-là. Mais ça, vous quoi? Si vous ne l'avez pas fait, je vous en veux pas. Ces articles-là ne valent pas la peine d'être lus, encore moins d'acheter ce type d'articles-là qui parlent contre vous autres, contre votre mode de vie, qui jugent constamment vos choix familiaux parce que vous avez besoin d'espace de rangement quand vous sortez de la maison. Tu sais, moi, là, je suis dans mon Wrangler, OK? C'est un Wrangler deux portes, là, Ben, OK? Ouais. Je rentre deux poches de hockey là-dedans, mes deux gars, plus moi, puis j'ai de l'air, tu sais, des perdus là, qui font des déménagements là, avec leur vélo, là, tu sais, tout empaqueté les autres. J'ai de l'air de ça dans mon Wrangler tellement je suis tassé. Puis je me dis, tu sais, il serait peut-être le temps pour moi d'investir dans un véhicule qui a peut-être un peu plus de capacité de stockage, mais... Moi, je comprends ceux qui ont des familles qui ont besoin d'espace à l'intérieur du véhicule, mais ce que je ne comprends pas, c'est des gens qui luttent contre notre mode de vie alors qu'on n'est pas plus méchant que les autres. Puis en majorité, on paye plus de taxes et impôts que ces gens-là qui travaillent pour des organismes un peu bizarres comme Piétons Québec. Hey, autre question que je voulais te poser pour ce qui est de l'industrie du camionnage. On parle beaucoup d'économie, Ben, on parle beaucoup d'inflation. Oui. Quand on regarde les économistes, on dit « ouais, 2024-2025, ce ne sera pas nécessairement évident ». Est-ce que les gens ont commencé à moins consommer? Est-ce que vous ressentez ça dans l'industrie du camionnage? Est-ce que c'est comme avant ou ça a commencé à ralentir un peu?
Il y a des effets, Yannick, qui sont indéniables. Tu sais, l'épicerie et d'autres formes de transport où on n'a pas réellement senti de ralentissement encore.
Ouais.
Mais il y a tout ce qui est industrie de transformation et tout ce qui est industrie de bois et tout ça, on ne court pas après voyage. On exporte peu aux États, on importe peu. Assez qu'il y a des gestionnaires qui me disent qu'on a perdu actuellement entre 20 et 25 % du total de load qu'on avait à pareille date lors de la pandémie. Pourquoi? Bien, parce que les taux sont affreusement bas. Il y a trop de camions sur la route. On est une industrie d'offres et de demandes. Ça veut dire que quand il y a plein de trucks qui appellent chez vous, puis tu sais, tu pourrais faire le test, tu dis, moi, j'ai un full load partir de Québec qui s'en va à Miami, en Floride, et tu aurais probablement 15-20 entreprises qui t'appelleraient pour dire, Monsieur Marceau, ça m'intéresse votre load. Et là, bien, tu essaies de faire descendre le prix autant que tu peux, on est une industrie comme ça. C'est plate pour nous autres parce que on a eu des bonnes années avec la pandémie, il ne faut pas se leurrer. On a eu des années où on pouvait facturer ce que ça valait comme industrie de camionnage, de carburant qui coûtait une fortune. On leur facturait aux clients avec des surcharges de carburant. Mais là, actuellement, les temps difficiles dans notre industrie, c'est que on a des... Au niveau du recrutement, les entreprises de transport sont moins favorables à recruter là. Pourquoi? Bien, c'est parce que si j'embauche 10 chauffeurs, mais que je n'ai pas d'ouvrage pour eux autres, j'ai brûlé ces gars et ces filles-là. Fait que j'aime autant laisser quelques camions, le nez dans la clôture, pas rouler, les déplaquer à la limite. Fait que je n'ai pas trop de frais, à part si j'ai un paiement dessus. Et ça me positionne peut-être plus favorablement quand il y aura une reprise, de dire, oh, j'ai 10 trucks, j'embauche 10 employés tout de suite, puis on repart la machine. Mais les entreprises sont très peu friandes actuellement de dire, faudrait que j'achète 25, 30, 40 camions, à moins que tu sois dans un type de transport qui n'a pas vraiment ou qui ne connaît pas réellement la récession. La bouffe, les fruits et légumes. Oui, c'est au ralenti, mais quand même, les gens continuent de consommer. As-tu remarqué aussi le prix d'une épicerie depuis quelque temps, même si au niveau fédéral, on nous a promis des baisses, tout ça. Une épicerie, là, si tu achètes tout ce qui est santé, m'a dit, c'est quasiment une hypothèque aujourd'hui. Il faut quasiment que tu prennes un prêt hypothécaire pour aller faire ton épicerie. Ça n'a plus de bon sens.
Des fois, ma blonde a fait ses épiceries à part du reste de la famille parce qu'elle aime ça, manger santé avec des produits biologiques et tout ça. Puis, des fois, on split la facture. Puis, je regarde les éléments qu'elle a, produits santé X, là, par rapport au reste de la facture. Ben, ça coûte extrêmement cher, là. Quelqu'un qui veut avoir ce mode de vie-là et manger santé tout le temps,
bio.
C'est des fois, c'est 60 % de plus cher que le reste, là.
Oui. Puis c'est sûr que les épiciers vont attribuer l'augmentation au coût de transport. Mais un coût de transport qui vous coûte le double ne devrait pas coûter le double à chaque canne qu'il y a dans remorque. Tu sais, dans le meilleur des mondes, c'est, mettons, 44 palettes qui pourraient rentrer dans une remorque de type fermé. Bon, c'est souvent 22 parce que, bon, ça va plus vite, c'est plus facile, tout ça. 22 palettes de cannes de soupe, là. Si vous l'augmentez d'une pièce, là, ça n'a pas coûté ça de plus en transport. Ça a peut-être coûté 15, 20, 30 %. Mais là, on assure 100 % du coût en augmentant chaque canne. Puis ça, je trouve ça déplorable aujourd'hui. Puis notre épicerie là, au Québec, là, c'est rare qu'on a des fabricants qui fabriquent la bouffe au Québec qui est distribuée dans les supermarchés. On va chercher ça généralement là, pour les gars et les filles là, qui font beaucoup de Québec-Ontario. Là. L'Ontario nous fournit là, en produits alimentaires incroyables. Les pâtes alimentaires, tout ça, ça arrive souvent de l'Ontario. Les jus, là, tu sais, j'en ai charrié combien? Les espèces de fameux deals là, de la semaine dans circulaire, ouais. On avait un jus un tel, une marque un tel. On allait chercher des full loads dans une entrepôt à Toronto qu'on avait stocké quasiment jusqu'au bord des portes. Là, ça sortait et on allait distribuer ça dans les supermarchés. Et c'était le deal de la semaine. Fait que ça, c'était probablement des consortiums qui disaient, bon, on achète tout le monde le jus tel au raisin, tiens. Puis on fait un deal là-dessus cette semaine, puis tout le monde était gagnant. Mais, tu sais, il faudrait peut-être pas se mettre la tête dans le sable, là, mais les épiceries ont fait leur part de profit. Peut-être qu'à un moment donné, ils pourraient plafonner, là, puis rester un petit peu plafonné pour un bout. Ne serait-ce qu'ici, j'ai une coop là, comme épicerie, puis torieux, j'ai pas l'impression que je fais partie d'une coop, j'ai l'impression que je fais partie... De gens qui vont quasiment sortir, je le disais tantôt à la blague, mais l'hypothèque pour payer l'épicerie. Puis c'est toujours plus cher qu'ailleurs. Puis quand tu questionnes, ah, oh, mais oui, mais là, il faut survivre. Faut... Je le sais, mais est-ce que c'est nécessaire que tu sois 2 piastres par produit de plus qu'ailleurs ou 1 piastre par produit? Si tu étais 25 cents, je t'encouragerais pareil. Je n'irais pas à Victo parce que Victo est moins cher. Mais on le sait, des fois, on est d'un petit marché, on charge qu'on pense que ça vaut, puis on abuse un peu des clients, dans le sens où ici, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, pour X raisons, n'iront pas au centre-ville de Victo, n'iront pas à Québec pour sauver une couple de piastres, puis à un moment donné, ben l'épicerie continue de grimper ses taux, puis... Tout le monde achète pareil, ils n'ont pas le choix. C'est le seul, il est là, faut acheter là.
Parce que c'est... le montant, Ben, en argent de profit a augmenté, mais le pourcentage de ce que les épiceries se font comme profit, lui, semble pas avoir bougé. Puis j'en discutais avec mon équipe du midi sur les ondes de boulevard. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire des enquêtes, à savoir être dans le merveilleux monde de l'alimentation. Là. Puis tu sais, j'inclus le lait, j'inclus tout le fromage, tout ça. Est-ce qu'il existe encore des cartes? Des gens qui se parlent entre eux pour fixer des prix, pour être sûr et certain de faire le max de pognon possible. Et si ça existe encore, les sentences qu'on peut donner à ces gens-là qui en profitent sur le dos du pauvre monde, est-ce que ça peut être encore plus élevé pour que ça fasse peur à ces gens-là. T'sais, on l'a vu dans le pétrole, dans le secteur de l'Estrie, là, il y a des stations-service qui se sont fait prendre. T'sais, les amendes n'étaient pas très sévères.
Mais non, je pense que c'était une carte de 10$ ou de 20$ d'essence.
Les amendes n'étaient pas sévères, mais moi, je rends encore plus loin que ça. Vous vous faites prendre à comploter dans le but de fixer des prix. Bien, savez-vous quoi? Vous n'avez plus le droit pendant 10 ans de posséder une entreprise ou encore de diriger une entreprise dans le merveilleux monde de l'alimentaire. C'est fini, c'est terminé, tu remballes. Tu n'as plus le droit d'avoir ton entreprise dans ce monde-là parce que tu as fourré du monde. Il faut que ce soit des sentences plus sévères pour que ça leur fasse peur. Les fromages, le prix est extrêmement élevé. Le lait, là, c'est pas les producteurs qui se font du cash, c'est ceux qui font la c'est pas les transporteurs non plus, c'est des grosses entreprises comme Saputo et tout ça, c'est eux autres qui se font un max de pognon. On peut-tu les surveiller, ces gens-là? On peut-tu connaître leur marge de profit? On peut-tu... C'est des questionnements qu'on doit avoir. Est-ce que Saputo et les autres entreprises qui font à peu près la même affaire, qui sont dans la transformation, parlent entre eux, fixent des prix? Mais je te dis pas qu'eux autres font ça. Mais si jamais ces gens-là feraient ça, on peut-tu leur donner une sentence qui va faire en sorte que ça va leur faire assez peur de recommencer, que les prix vont rester bas puis ils vont arrêter d'abuser sur le pauvre monde? Parce que, tu sais, les marges de profit ont pas bougé en pourcentage, mais les montants, comme les coûts des aliments ont augmenté, les montants ont augmenté. Tu sais, les profits de ces entreprises-là ont augmenté, mais pas les marges.
J'abonde dans le même sens que toi, Yann, mais comment ça se fait que si tu jettes dans la bannière X, ton lait, le lait puis le fromage, ils ont comme des prix style plancher un peu, mais mettons le sac de chips, OK, que tu aimes réellement là, au barbecue, tiens, que tu vas le payer 5 piastres, parce que c'est rendu 5 piastres,
un sac de chips. Moi, c'est sel et vinaigre.
Bon, sel et vinaigre. Que tu payes 5 piastres dans une bannière X et de l'autre côté de la rue, il est 5 piastres aussi. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un genre de collaboration ou de quelqu'un qui va sniffer les prix de l'autre. L'essence. Écoute, il y a deux stations de service sur un coin de rue. Il y en a un qui baisse de 2 cents, l'autre baisse de 2 cents. L'autre augmente de 2 cents. Tu ne me feras pas croire. Dans le transport, là, mettons que demain matin, moi, j'ai 10 trucks. Tu as 10 trucks, Yannick. Puis qu'on dit, nous autres, là, parce qu'on fait affaire chez telle compagnie, là, et qu'on va charger 3,50 $ du 1000, Yann. Tu vas dire, OK, Ben, on s'entend là-dessus, 3,50 $. Ouais. Bien, on se ferait traiter, on se ferait accuser de collusion. Mais il n'y a pas une station de service, puis probablement que ce n'est pas eux autres qui gèrent ça, là. Mais il n'y a pas aucun fournisseur d'essence au Québec qui se fait donner une petite tape sur les doigts en disant, je trouve ça bizarre que quand un baisse, tu baisses, quand l'autre monte, tu montes, ou tu es le premier à emboîter le pas, puis tout le monde suit. Est-ce que vous vous appelez? Le cartel qu'il y a eu il y a quelques années dans le coin ici, là, ben bizarrement, là, depuis ce temps-là, là, on dirait qu'on est toujours plus haut que tout le monde. C'est comme, bon, on a fini de vous donner des deals parce qu'il y a eu longtemps des deals et je ne sais pas qui a accusé qui de dire vous êtes meilleur marché. Bien, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé que c'était un cartel. Les prix étaient quand même pas si élevés. On a donné 10 piastres au monde, c'est une forme de carte cadeau. Puis après ça, bien là, tous les prix ont augmenté depuis ce temps-là. Fait que moi, permets-moi d'avoir un grand doute sur tous ces éléments-là. C'est sûr que les fruits et légumes, à la base, je pense que les épiceries les payent à peu près tous le même prix, sauf que ça va dépendre du volume. Le reste, là, tout ce qui est denrées, là, que ce soit la canne, aller tout ce qui n'est pas réfrigéré, là, ben, d'après moi, en tout cas, je suis pas sûr qu'une bannière a plus de deals qu'un autre quand il appelle, ne serait-ce que Catelli, dire « je veux 10 vannes de pâtes, envoie-moi ça dans tous mes supermarchés » versus un autre qui va dire « moi, c'est 8 vannes ». Il y aura pas sûr qu'il y ait un meilleur prix tant que ça, mais on va se maintenir, on va se parler, je ne sais pas, il y a comme un dialogue qui est fait. Et pourquoi des fois que quand, mettons, une épicerie va dire, puis là, on n'en voit plus de ça, là, mais durant la pandémie, puis même avant la pandémie, on disait, si vous trouvez un meilleur prix ailleurs, on va l'égaler moins 10%. Là, à cette heure, c'est paye le prix, ferme ta boîte, endure, puis s'il est meilleur marché ailleurs, bien, tu iras ailleurs. On est rendu là. Fait que là, je trouve ça déplorable. C'est toujours le travailleur, la travailleuse, puis les gens qui ont des faibles revenus, qui écopent pour ça, parce que si tu gagnes, comme toi, mettons, 1 million par année, ça paraît pas trop dans ton budget, mais pour des gens comme moi ou les auditeurs qui t'écoutent, c'est sûr que ça a un effet.
C'est ça. Il aurait juste fallu que tu rajoutes sur 25 ans, là. Mais je comprends ce que tu dis. Comment ça fonctionne, la fixation des coûts du transport? Est-ce que c'est une fois par année, il y a une table de concertation des hommes et des femmes qui sont dans l'industrie du transport, qui s'assoient puis qui décident des prix du kilomètre? Parce que j'imagine qu'il y a comme une certaine réglementation. Quelqu'un ne peut pas arriver dans le marché puis couper les prix pour essayer de faire tomber tout le monde?
En fait, il n'y a pas de loi, il y a juste une morale qui existe, OK? Ceux qui dictent les prix, c'est souvent des entreprises de très grande taille qui vont distribuer leur matériel un peu partout en Amérique du Nord en disant, si vous voulez transporter pour moi, dans cette zone-là, je vous donne tant du mille. Dans cette zone-là, je vous donne tant du mille. Puis là, bien, envoyez-moi vos soumissions. Et là, tu as un cartable avec toutes les villes où eux autres vont faire des livraisons. Et là, ben, mettons que tu vois que c'est 3 et 25 du 1000, tu dis, ah, moi, il fait 3 et 12, tiens. Mais l'autre ailleurs, il est à 2 et 78. Ouais, là, moi, je vais y remonter à 3 et 5. Fait qu'il n'y a pas de règles à suivre. Il n'y a pas d'entreprise qui téléphone d'autres entreprises en disant, ouais, on coupe-tu d'un prix ou on augmente les prix ou on se tient d'un prix? C'est sûr que ça doit se faire en quelque sorte, quelque part, mais c'est très, très, très underground. C'est pas réellement répandu. La seule affaire, c'est qu'on sacque tout le temps dans notre industrie sur le fait de... J'avais 40 voyages sortant d'une entreprise X vers les États-Unis. Puis là, il m'a appelé pour me baisser de 50$ du voyage. Ça représente quand même une somme popée. Puis j'ai dit non. Puis il m'a dit, sors mes remorques, j'ai un autre transporteur. Puis là, tu vois ton compétiteur rentrer là. Fait que dans ta tête, tu te dis, lui, il a coté pas mal plus bas que ça. Et est-ce que c'était vraiment 50$ ou c'était juste 10$ ou 20$ du voyage? On ne le sait pas. Mais comment c'est dicté? Je te dirais que ça va un peu au goût du jour. Ça veut dire que, bon, c'est une négociation. Ça veut dire que si je t'appelle, mettons, tu as un voyage du New Jersey vers Québec, la ville, et, bon, je t'appelle, Yannick, j'ai vu que tu avais posté un voyage sur le Loadlink. C'est un board en ligne qui permet d'afficher tes voyages avec ou sans prix. Et là, ben, je t'appelle, Yannick, tu as un voyage, j'ai un truck qui n'est pas loin, je pourrais aller charger ça tout de suite à soir, là, sans problème. Puis, OK, c'est quoi ton taux? Bas? 1500. C'est une misère. T'es cher. Stratégie de tout le monde. T'es toujours cher. OK, tu voyais ça comment? Ben, je sais pas, moins 1000. OK, mais on s'entend-tu à 1300? OK, vas-y. Fait que, tu sais, c'est de la négociation. C'est au goût du jour. Puis souvent, puis ça, c'est le défaut qu'on a dans notre industrie, c'est que si j'ai été vers le New Jersey, que j'ai fait un profit incroyable, ça veut dire que j'ai fait de l'argent. Là. Ouais. Je vais avoir fait 3-4 000 pour monter là. Bien, je suis prêt à m'en revenir pour des pinottes. Et c'est là où ce que ça nous cause problème dans notre industrie. Vous allez dire, oui, mais s'il l'offre. Oui, s'il l'offre. Fait que tu sais, tu dis, bon, bien, tu as fait bien de l'argent pour t'en aller, mais tu ne me charges rien pour t'en revenir. Fait que ce client-là, dans sa tête, la prochaine fois, il va chercher un autre transporteur qui a fait à peu près le même trip. Puis... le défaut de certaines personnes en logistique qui vont calculer au round trip. Là, à ce moment-ci de l'année, là, on calcule au round trip. Ça veut dire qu'on fait bien de l'argent pour y aller. Bon, on va en faire moins pour s'en revenir, pour que le truck veille de plus en plus. Mais c'est parce qu'on se tire dans le pied, selon moi, à faire ça, parce qu'on crée de l'attente chez les clients qui disent, ben oui, mais il l'a fait à moitié prix. J'ai déjà connu, Yannick, dans mon passé pas si lointain, des compagnies de transport, j'avais des remorques. Moi, j'avais un contrat de remorque de ramener, tu sais, les fameuses belles petites remorques fermées, là, mm-hmm. qu'il y a un peu partout. Il y en a en Indiana, il y en a au Texas, il y en a tout. Et je postais ces remorques-là, ben, j'avais un contrat avec les clients. Puis tu ramènes 3 remorques du Texas et je postais ça en ligne. Puis là, j'avais des compagnies de transport qui m'appelaient. J'ai un truck là-bas, je pourrais te ramasser ça. OK? Comment tu me charges? Puis c'est dans le coin, dans l'est du Texas. Là. Ah, 1200$, c'est-tu trop cher? Tabarnouche. Moi, la première question, as-tu assez pour payer ton gaz? Ah oui, mais fait de l'argent en montant. Tu sais, moi, si tu pourrais dire, il m'a donné 2500, même si ça valait plus encore, mm-hmm. il me l'offre à 1200. C'est son prix de départ, pas négocié, pas rien. C'est beaucoup trop bas. Puis ça paye, un camion là, coûte probablement une pièce à rouler du 1000 et plus. Fait que faut que tu essayes de rentrer dans ton argent. Il y a 2000 milles au Texas. Tu viens de manger 800$, tu as ramené des remorques. Puis je vous le dis, là, il y a certains types de transports, notamment comme les remorques, où tu as mangé une roche en roulant. Bien là, ils vont te faire un claim qu'on appelle. Là. C'est-à-dire, cette feuille de tôle-là coûte 1500 à réparer, à changer. Il faut la changer. Il y a une poque dessus. Moi, j'ai perdu de la valeur sur ma remorque. Fait que je déduis 1500$ sur le voyage. Il t'a chargé 1200. Fait que là, il faut que tu y fasses une facture de 300$ pour que tu rembourses tout ça. C'est pas tellement le fun. Fait que chargez ce que ça vaut. Si vous avez un flat, si vous avez quelque chose, bien, ça va vous donner au moins un petit lousse. Puis le but dans le transport, c'est pas de faire du bénévolat, c'est de faire de l'argent. Si vous êtes en entrepreneur puis que vous voulez pas faire d'argent, bien, chargez pas ce que ça vaut. Puis dans 5 ans, dans 6 ans, vous serez en faillite. Puis, tu sais, venez pas broyer sur votre sort. Il faut facturer ce que ça vaut, le transport. Puis même si vous êtes dans un esprit de compétition, pensez peut-être à rajouter une palette, 2 palettes, 3 palettes sur votre chargement, faire plus de livraison, mais la palette de 400-500$, une autre palette de 400-500$, fait que des fois, tu as 4 palettes qui te font donner un full load complet en termes monétaires, puis que tu as 4 palettes dans le trailer, c'est tout, moins de carburant, moins de troubles. Ouais, c'est 4 livraisons, vous allez me dire, mais des fois, c'est plus payant.
Hey Ben, avant de faire une courte pause, j'ai été, dans les dernières secondes, pendant qu'on se jasait, là, je suis retourné dans mes anciens textos, parce que des fois, il y a des questions pertinentes qui arrivent après l'émission, puis on avait jasé dans Marceau Soir, et il y avait une question pertinente, c'était Eric qui te pose comme question, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Monsieur Terrien, j'imagine qu'il ne te connaît pas encore, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne chauffeur versus broker? J'ai l'intention de prendre mon cours au CFT, Centre de formation en transport de Charlebourg dans les prochaines semaines, et j'hésite à entrer chauffeur ou broker. Je suis quelqu'un qui est à sa pré-retraite. J'ai les fonds pour acheter un camion.
Bon, ce que je suggérerais à cette personne-là, premièrement, c'est bravo, premièrement, de choisir le plus beau métier du monde, même s'il y a des impondérables dans notre milieu. Mais moi, ce que je suggère, premièrement, la formation du CFTC, c'est la meilleure formation CFTC, CFTR. Pourquoi? Parce qu'elle va vers l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles, donc vous êtes reconnu. Les entreprises de transport vont privilégier une formation avec un DEP qui vous donne le diplôme d'études professionnelles et vous aurez moins de misère à cogner à des portes pour avoir un emploi après votre formation. À savoir si je m'en irais broker ou si je m'en irais chauffeur, ce que je vous suggère, puis c'est bien personnel à moi, vous ferez ce que vous voulez, mais j'irai chauffer un camion pour une entreprise juste par principe de connaître le rouage de tout ça, si vous n'avez pas d'expérience actuellement. Fait que connaître un peu les emplacements. Il y a des entreprises qui vont vous donner un genre de culture. Ça veut dire que quand vous arrêtez le soir, vous arrêtez le camion, le moins d'idle possible, le moins de moteur au ralenti possible. Aussi, ben, faut mettre du carburant à tel endroit, dans tels états. Pourquoi? Parce que la taxe est moins élevée. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Et c'est mieux au système de fuel tax, là, qu'on appelle. Donc, il y a des endroits où c'est mieux. Il y a des douanes où ça va être plus facile de traverser parce qu'il y a moins de délais, il y a moins de troubles. Les meat inspections, si vous transportez de la viande, ben ça se on ne peut pas traverser partout avec ça. Fait que juste le rouage d'un 2-3 ans avec un camion d'une entreprise, vous allez être camionneur, pourra vous emmener vers le fait de devenir broker. Et quand vous deviendrez broker, si vous n'avez pas encore négocié vos assurances, la première chose que je vous suggérerais avant d'aller négocier un prêt de camion ou avant d'aller acheter un camion, c'est d'appeler un assureur. Il dit, soit je viens de débuter, j'ai ma formation classe 1 depuis 2 mois ou ça fait 3 ans, peu importe, mais je veux devenir broker. Et vous allez voir, ça se peut que vous ayez des refus de la part des assureurs parce que votre expérience n'est pas assez longue. Mais on dit que les CFTC, CFTR, Centre de formation en transport de Charlebourg, ou Saint-Jérôme, qui est le CFTA, ben donne l'équivalent d'à peu près 2 ans d'expérience. J'ai été formateur, moi, quand j'ai été camionneur. Puis quand ils sortaient de ces centres-là, là, écoute, je passais une semaine quasiment en vacances, à part fignoler un petit peu des manques d'expérience puis tout ça. Mais pour le reste, ces gars-là et ces filles-là là, sont qualifiés pour chauffer un truck quasiment partant. Ce qui manque, ben des fois, c'est un peu de géographie, de savoir où arrêter, de planifier ses journées. Quand tu dis, bon, ben on part puis on s'en va à Chicago. Où est-ce que j'arrête à soir? Où est-ce que j'arrête demain soir? Puis est-ce que je suis capable d'aller coucher chez le client? Important, là, ça a l'air niaiseux. Où est-ce que je prends ma douche dans tout ça? Faut bien que je me lave à un moment donné. Je ne passerai pas la semaine à rouler dans le truck. Bien, c'est tous des éléments de planification qu'après, normalement, bon, 1 an, 2 ans, on est capable de planifier ça. Puis le premier 6 mois, là, s'il y a d'autres auditeurs et auditrices qui vont aller suivre une formation, votre premier 6 mois, là, ne vous découragez pas. Retenez ça, là, ne vous découragez pas. Les 6 premiers mois, là, vous allez trouver ça dur parce que où est-ce que j'arrête? Où est-ce que je mange? Il me semble que je suis toujours en train de rouler. J'arrête pas. Je suis fatigué. On dirait que je suis toujours au bout de mon log.
Ouais.
Ça va se replacer. Ça va vous prendre 6 mois à vous replacer, à dire j'arrête là. je suis capable d'arrêter là, je suis capable de penser ça, tu sais, et vous allez trouver un genre de...
Des repères.
Oui, d'autonomie, puis vous allez savoir après ça que, ah, c'est vrai, j'ai déjà été là, on peut arrêter à tel truck stop, à tel endroit, on va prendre ma douche à 2 heures d'après-midi versus peut-être à 10 heures à soir quand c'est bien plein. Tu sais, vous allez pogner plein de trucs comme ça. Mais les 6 premiers mois sont quand même difficiles dans l'industrie parce que là, c'est tout rentre, là, tu sais, toute votre formation commence à rentrer. Puis les formateurs dans ces centres-là sont ultra qualifiés. Je dirais que 95 % de ceux-ci sont des camionneurs, d'ex-camionneurs. Puis ils vont vous montrer la réalité du milieu. Puis il y a une chose, là, pas à dédaigner, là. Peut-être un jour, Yann, tu pourrais faire ça. Mais il y a élèves d'un jour qui appellent dans ces centres de formation-là gouvernementales, bien, qui sont publics, et qui fait que tu peux aller une journée de temps, t'asseoir, regarder est-ce que c'est peut-être le métier que j'aimerais faire. Il y a des compagnies de transport qui commencent à adhérer à ça. Je t'emmène. Et tant que moi, Yann, on va aller faire une raide de truck aujourd'hui, puis on va se promener ensemble, puis peut-être qu'à la fin de la journée, tu vas dire, pas pantoute pour moi, ou, ouais, ça a l'air intéressant, c'est le fun, j'embarque dans le milieu, puis je vais devenir camionneur. Fait que, tu sais, bon, réponse simple à l'auditeur, si tu as le goût de devenir broker, tu peux y aller. Première chose, négocie tes assurances. En partant, c'est la première chose. Ça se peut que tu aies un refus, puis ça pourrait être normal que tu aies un refus, puis deviens camionneur pour tout apprendre du milieu.
OK. Et puis, la prochaine question, en 30 secondes, Ben, faut faire vite, là. Est-ce que j'ai vu sur TikTok des camions avec un bed arrière qui était immense, avec une toilette intégrée puis une douche intégrée. C'était quasiment 2 étages, cette affaire-là. C'était immense, mais c'était des camions qui étaient aux États-Unis. Puis dans les commentaires, il y a quelqu'un qui avait écrit en français « Dommage qu'on puisse pas avoir ce type de camion-là au Canada. » C'est pourquoi on peut pas avoir ce type de camion-là au Canada pour nos camionneurs et camionneuses? Je veux dire, c'est l'idéal là, d'avoir une toilette et une douche à l'intérieur?
Souvent, ces entreprises-là sont des entreprises de déménagement, transport des fois de matières un peu qui sont pas pesantes, parce que ça n'a pas la longueur. C'est 75 pieds ou à peu près un camion, là, du bumper en avant, en arrière. Si tu amputes de 10 pieds, ne serait-ce que ce Winnebago-là que tu installes en arrière, bien, c'est 10 pieds de moins de chargement pour ta remorque.
Ah, voilà.
Fait que pour la rentabilité, on n'est pas là. Au Québec, on charrie beaucoup de papier. Là, les camionneurs là, en charrissent énormément. Le papier, on va vous mettre le papier pour être à peu près à 100 livres du 80 000 livres de limite quand on s'en va aux États. Fait qu'imagine, oui, on aimerait tout ça, avoir ce studio-là en arrière, mais c'est une question de rentabilité. Si la personne de tantôt décide d'être broker puis qui dit, moi, avec la moitié ou le trois quarts d'un voyage, c'est rentable pareil, faites-le, mais on en verra peu ou pas. Une compagnie qui s'appelle Transwest au Québec qui a fait cette espèce de gros... bed-là, qui est à Montréal, mais qui, malheureusement, ben peut pas charrier grand-chose. Faut qu'il se mette une remorque de 48 pieds, donc moins de stock qu'une 53 pieds. Okay. Moins pesant, fait que personne y gagne.
Okay. Mais c'est quelque chose qui est en vogue aux États-Unis? Là. Les gars peuvent avoir ça aux États-Unis et ils se font pas chaler?
Ben en fait, c'est une mode. C'est tout est question de poids, de longueur et de largeur.
Ah, ben c'est ce que ma blonde me disait.
Ouais, mais excepté que, en tout cas, peut-être pas la grosseur du bed que. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, oui, effectivement, c'est des gens qui vont partir de longues périodes. Ouais. Il y a des camionneurs qui se sont payés ça dans le but de passer leur vie dans le truck. Leur adresse postale est quelque part chez une ma tante, un mon oncle, un frère, une sœur. Mais eux autres, ils passent leur vie dans le camion. Puis, ils vont trouver une ou deux palettes ici, une ou deux palettes là. Mais c'est des coûts astronomiques. Puis, imagine l'hiver, là. T'as une toilette, t'as une douche. Comment tu fais pour avoir de l'eau chaude et tu sais que la toilette ne gèle pas? Bien, on est pogné avec ça. Si ton truck reste parké pour une fin de semaine, bien, tout ça, c'est un mécanisme qui est en dessous du bed, peu ou presque pas chauffé. Fait que tout ça va geler.
Tu restes dans le sud des États-Unis, Ben. C'est là qu'est l'affaire.
Je fais tout ce qui est l'autoroute 10, je crois, qui part de la Floride et qui va jusqu'en Californie. Puis tu te tiens là tout l'hiver. Puis tu charries ce que tu es capable de charrier maximum de poids avec ce véhicule-là.
Hey Ben, on va terminer là-dessus. Je ferai ma pause un petit peu plus tard. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur le merveilleux monde du camionnage pour Truck Stop Québec, on vous suit comment?
Ben, il y a différentes façons de nous suivre. Les plateformes de médias sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et tout ça. On vous promet pas d'avoir, comment est-ce qu'elle s'appelle, là, celle qui a fait, c'est-tu 20-quelques mille par jour là, qui est passée?
Elle faisait 5000 piastres par live à ne rien faire sur TikTok. Moi, j'ai raté ma vocation. Hein.
Écoute, Marceau, on est prêt à prendre tes photos, tes vidéos pour 7 piastres par live sur TikTok. Mmh. Je ne sais pas si on peut signer le contrat direct là. On fait des farces, mais on fait une émission de radio de 16h à 18h du lundi au jeudi. Et Yannick Marceau est là à tous les lundis ou mardis quand le lundi est off. On a bien du fun, on parle de plein de choses qui touchent l'industrie du camionnage.
C'est toujours un plaisir de vous jaser, puis je pense que c'est avec vous autres que j'avais jasé de ça, mais j'avais intercepté une conversation, tu sais, les bonnes femmes, quand ça arrive à la maison, ça jacasse, ça parle, puis il avait parlé de deux filles qui faisaient énormément d'argent sur les réseaux sociaux en vendant des photos puis des vidéos de leurs pieds. Oui, ben oui, il y a des gens qui sont acheteurs de ça. Puis là, ma blonde m'avait dit, t'accepterais-tu ça que je mette des vidéos et des photos de mes pieds? J'ai dit, ben oui, c'est juste que je charge 10 % je suis votre agent, les filles.
Mais c'est bizarre parce que l'avènement d'Internet a amené toutes ces espèces d'histoires-là. Puis tu dis, ah ouais, écoute, s'ils sont prêts à payer puis qu'il y a des gens qui font fortune avec ça, ah, c'est leur vie, c'est correct. Vive et laissez vivre.
Ah, je veux juste pas que mes gars me disent « Papa, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est être influenceur. T'sais, prendre des photos de mes pieds puis vendre ça. T'sais, je veux juste pas que ça soit ça. »
Mais beaucoup de jeunes pensent que le succès obtenu via les plateformes de réseaux sociaux fait en sorte que tu vas gagner beaucoup de sous. C'est bien plus que ça. Il faut que tu travailles en tabarnouche là, pour arriver à que bon, tu as du monde qui te suive ou tu es capable de vendre la pub, ces réseaux sociaux et tout ça. Il faut que tu te battes continuellement, jour après jour. Fait que là aussi, vos pieds sont séduisants. Vendez-les. Là.
c'est pas mon cas. Hey, Truck Stop Québec, on vous salue. Salutations à tous les camionneurs, camionneuses et passionnés du camionnage. On va s'en jaser dans les prochaines semaines sur les zones de boulevard. Sinon, ben, chaque semaine, chaque lundi, quand c'est possible, sur les zones de Truck Stop Québec. Merci beaucoup, Ben.
Lâche pas, Yann.
On fait une pause, on revient.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102A.
Soir historique dans Jean Talon pour le Parti québécois. 44% des votes et on va en jaser avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est au bout du fil.
On espérait gagner, mais on se gardait une petite gêne parce qu'on avait, de toute l'histoire du Parti québécois, on n'avait jamais gagné Jean Talon. Mais gagner avec autant d'aplomb, là, avec un résultat aussi clair et non équivoque, on est infiniment reconnaissant.
Est-ce que le résultat d'hier, c'est un vote pour le PQ ou contre la CAQ?
Chez les deux, sur le terrain, on s'est fait dire qu'il y avait beaucoup de déceptions vis-à-vis le gouvernement. Mais on s'est aussi fait dire très souvent, on aime ce que vous faites, on aime votre travail, puis on juge que vous méritez un quatrième député parce que vous tirez le débat vers le haut.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
À Boulevard, on est une gang de tripeux. Tripeux de musique, tripeux de sport.
Listen, all you New Yorkers.
Donc, on t'envoie vivre le rêve dans la grosse pomme pour un rock'n'pop.
Oh, 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 here we go.
La partie rock, un show de Jimmy Eat World et de Fall Out Boy.
Le côté pop. Une game des Rangers.
Pis tout ça au légendaire Madison Square Garden. C'est comme gagner sa résidence à New York City, baby!
Chaque jour, reste à l'écoute et note au blvd.fm l'heure à laquelle tu entends une toune de Fall Out Boy.
Gagner ton trip pour aller les voir en spectacle et assister à une partie des Rangers à New York comprenant hébergement et transport. Boulevard 102 et La Poutinerie, fier partenaire de tes trips de Rock and Pop.
La Poutinerie, la référence en poutine à Québec.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la méga liquidation automne-hiver. Obtenez de 30 à 50 % de rabais sur une vaste sélection de manteaux, bottes, vêtements et chaussures des plus grandes marques pour toute la famille. Détails en magasin.
Salut Pierre, embarques-tu dans le pool cette année?
Eh oui, je me suis inspiré de l'événement Hyundai C'est Hockey pour choisir mes joueurs.
Et qui sont tes joueurs?
L'Elantra, le Venue et le Kona à l'attaque, le Tucson et le Santa Fe à la défense et le Palisade comme gardien.
Tu prends bien 6 joueurs de l'équipe Hyundai?
Certainement, Marc, je joue pour gagner et comme de nouveaux véhicules arrivent chaque jour, tu pourrais faire ton choix toi aussi dans l'alignement Hyundai.
Excellent plan de match!
Commandez votre nouveau véhicule dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle.
On le sait tous, déménager, c'est compliqué. Simplifiez-vous la vie et appelez MRL Courtier hypothécaire. Entourez-vous d'experts qui connaissent leur affaire pour valider et analyser votre capacité d'emprunt selon votre budget et surtout vos projets. MRLhypothèque.ca. Les meilleures solutions pour votre situation.
Pneus illimités, c'est une sélection de pneus inégalée, des outils d'achat utiles et des conseils spécialisés. Demain, 12 octobre, l'équipe de pneus illimités sera au garage Côté sur Wilfrid Hamel. Prix de présence et pneus gonflables vous attendent. Ne manquez pas ça. Hankook, partenaire de pneus illimités.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Du mardi au dimanche, ça se passe à l'Emporium. Avec une variété de bières brassées sur place et des pizzas cuites au four à bière rotative, l'Emporium, c'est la place pour une soirée en chum. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Être parent ou proche aidant d'un enfant avec un handicap comporte son lot de défis. Simplifiez votre quotidien avec les produits adaptés Handy. À la fois confortable à porter et simple à mettre. Retrouvez des vêtements de protection hivernale, bottes, housses couvre-jambes, bavoirs et vêtements pour baignade adaptés pour vos jeunes à besoins particuliers. Taille pour adultes offertes. Abonnez-vous à l'infolettre des produits adaptés Handy et obtenez 10 % de rabais. Pour un bon coup de main au quotidien, produitshandy.com, une entreprise familiale qui comprend vraiment vos besoins.
De la conception à l'installation de vos armoires, faites confiance à Maturé Cuisine et Salle de bain. Prenez rendez-vous dans l'une de nos 5 succursales et jusqu'au 22 décembre, profitez de 5 % de rabais sur la signature d'un nouveau contrat. Visitez la page Facebook Armoire Maturé et laissez-vous inspirer.
Présentement chez Desjardins Autocollection, obtenez votre F-150 et économisez 7 000 $ et obtenez la doublure de plateau pulvérisé roue standard au choix sans frais. Ou optez pour le Edge 2024 et sauvez jusqu'à 5 000 $. À l'achat ou la location du légendaire Mustang Mach-E Premium en inventaire, la borne de recharge est gratuite. Le Mach-E Premium est aussi éligible à une subvention gouvernementale de 5 000 $. Faites vite, ces offres sont d'une durée limitée. Desjardins Autocollection, rue Marais à Vanier.
Facebook et Instagram veulent pas de nous autres. Mais vous autres, vous voulez rester informés et voir nos niaiseries. Pour tout ce qui se passe à Boulevard, l'app gratuite, TikTok, YouTube, X et le BLVD.fm.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est ce qui termine Marceau le soir, en espérant que vous ayez passé un excellent 60 minutes en compagnie de Benoît Thérien de Truck Stop Québec. C'est toujours un plaisir de jaser de l'industrie du camionnage. Énormément de camionneurs et de camionneuses et de passionnés qui sont à l'antenne. Donc, merci beaucoup, by the way, quand vous nous envoyez des messages sur l'appréciation des invités. Moi, ça me donne un indice comme quoi vous voulez les réentendre. Hey, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les ondes de Boulevard et j'aurai le plaisir de vous croiser demain à 11h sur cette antenne-là, le 102.1 à Québec, pour ce qui est de Marceau le midi avec Pascal CV et Thomas Gauthier. Donc, je vous salue puis bonne soirée. Ciao.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Mais c'est pas comme si on pensait constamment à vous. Non, ça, ce serait bizarre. On sait juste que votre 9 à 5 est aussi précieux que votre 5 à 9. Et qu'à bord du RAV4, le VUS le plus vendu au pays, vous pouvez profiter des deux à fond. Quand c'est le temps de profiter de la vie, c'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca.
Quand 4 murs de bureau beige n'est pas fait pour toi, que tu préfères le bruit des moteurs au bruit d'un clavier d'ordinateur, si tu aimes mieux travailler dehors que dans un décor en mélamine et que tu as envie que ton travail soit une aventure et non une routine ennuyante,
pense au CFP Val-d'Or. Nos quatre formations minières, d'une durée de 4 à 10 mois, sauront satisfaire ton désir d'aventure. Pour plus d'informations, rends-toi sur leprodesmines.ca ou viens nous voir au Salon Carrière Formation de Québec les 19, 20 et 21 octobre prochains au Centre Expocité.
Chocolat Favori organise une vente d'entrepôt.
Profitez d'un minimum de 50 % de rabais sur vos produits favoris. Ça se passe à la Fabrique Chocolat Favori les 14 et 15 octobre dès 9h au 4355 rue Jean-Marchand.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable, c'est l'Atelier. Savourez un repas entre amis ou réservez pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'Atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
Voulez-vous économiser sur votre changement de pneus? Kennedy Pneus et Mécanique vous offre une carte cadeau d'une valeur de 250 $ pour seulement 125 $ au mercado.fm. Kennedy Pneus et Mécanique, à 15 minutes des ponts, ça vaut le déplacement.
Les pneus, ça nous connaît.
Les roulottes, les bateaux et les remorques pesant jusqu'à 9000 livres unissent leurs voix pour remercier du fond du cœur le Chevrolet Silverado 1500. Parce que sans sa capacité de remorquage, ben, on bougerait pas bien, bien. Amateurs de plein air, d'aventure et d'émotions fortes, c'est le temps de passer au Chevrolet Silverado 1500. Visitez votre concessionnaire Chevrolet dès aujourd'hui pour en faire l'essai. Les membres de Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $. Profitez-en! Les conditions s'appliquent. Détails à offrechevrolet.ca.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV, Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, il vole le map blanche.
Boulevard 102.1, tes sujets, ton rock, ta radio.
La face cachée du rock avec Patrick Langlois est présentée par Abba Extermination. Abba Extermination, c'est des centaines de commentaires positifs de la part de clients satisfaits. Abba Extermination, c'est aussi le gagnant du choix du consommateur cette année. Aucun doute pour les insectes, Abba Extermination, c'est la référence. Estimation gratuite, service garanti. Que ce soit pour fourmis, rongeurs, guêpes, araignées, punaises de lit, avec l'arrivée du froid, les rongeurs et les insectes cherchent à entrer à l'intérieur de la maison. Pour éviter tout problème, demandez dès maintenant un traitement préventif ou contactez ABBA si vous vivez un problème présentement, une entreprise de Québec qui emploie des gens de Québec, 418-666-6667 ou au abbaextermination.ca.
Lorsque le public retourne paisiblement à la maison, la magie continue d'opérer à l'envers du décor. Pat Langlois vous présente les artistes qui œuvrent dans la face cachée du rock.
Présenté par ABBA Extermination. Le froid s'amène, mais les bébites restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. ABBAExtermination.ca.
Je suis vraiment content de te recevoir, Frank. Tu sais, à chaque semaine, à la face cachée du rock, j'aime ça présenter quelqu'un qui s'occupe des coulisses d'un band. Et je veux pas minimiser l'importance de tous les invités que j'ai reçus à date, mais t'es potentiellement celui qui a la job la plus importante. Mais tu sais, je ris même pas. Tu vas voir un show et tous les yeux sont rivés sur la scène, mais il y a une job que le band peut pas faire. Tu sais, le band est capable d'accorder sa guitare entre deux tunes tout seul. Le band est capable de faire bien des trucs, mais tu peux pas mixer ton propre son.
Exact.
Frank Joly, ingénieur de son, tu portes quelques chapeaux aussi, gérant de tournée, gérant de production, exact. Producteur en studio. J'ai le goût de commencer avec ingénieur de son parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Toi, tu es derrière la console, au show. Tout le monde regarde en avant, toi, tu es en plein milieu. Puis c'est toi qui s'assure que ça sonne comme du monde. Je me rappelle pas au cégep, mais il me semble que ingénieur de son, c'était pas haut sur la liste des options. Comment est-ce que tu tombes là-dedans?
Ben, j'ai commencé quand j'étais ado, j'avais un band.
Okay.
Puis on commençait à faire des shows. Puis je portais plus d'importance à comment on sonnait, à comment tu jouais. Comment je jouais. Fait que ça a pris trois shows. Je disais, les gars, on va se trouver un autre drummer, je vais aller faire le son.
C'est bien drôle.
Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire le son. Puis j'ai fait le son pour les bands d'Acton, puis des bands punk rock.
Oui, parce que tu viens d'Actonville.
Actonville, exactement, exactement.
Il y avait une pas pire scène musicale là-bas,
oui,
qui te permettait?
Oui, il y avait beaucoup de shows justement à la Drummond aussi. Blink, justement, que Fred jouait, il était venu à Drummond. C'est un des premiers shows qu'ils ont fait.
OK. Fait
qu'il y avait quand même une bonne scène de punk rock dans la région.
Et donc, je comprends que tu as pas mal appris sur le tas, donc, avec oui. Ce band-là. Puis, quoi, tu as une console, tu as plein de pitons.
Exact. Ben, dans ce temps-là, je savais même pas comment brancher un compresseur, mais j'ai appris vraiment sur le tas. Puis il y avait une attestation au cégep à Drummondville,
okay,
que je suis allé faire pendant un an. Puis après ça, je me suis dit, si je veux faire ça dans la vie, il faut que je me trouve un band. Puis j'ai trouvé un band qui s'appelait Sub, back in the day, Punk ska. Puis je suis parti avec eux autres, on est parti quasiment un an en tournée dans le stop avec Planet Smasher, The Vandals. Puis fait que je regardais les autres semaines travailler, puis je prenais leurs trucs, puis j'appliquais ces trucs-là à mon mix. Là.
Mais tu as quand même fait un an. Il y a une technique qui s'apprend. Là. Il y a des cours qui existent.
Oui, à ce temps, je pense que c'est rendu 3 ans. Mais anyway, le domaine, c'est vraiment. Faut que tu apprennes. C'est vraiment sur le tas pareil.
Faut que tu le fasses.
Faut que tu le fasses. Là.
Et donc, au cégep, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent, c'est quoi, genre?
Ils t'apprennent plus à comment rouler un fil. Puis...
Oh, c'est vrai?
Oui. Mais tu sais, t'apprennes la base, mais c'est assez minime pareil. C'est vraiment sur le tas, puis tu. Let's go, faut que ça marche. Faut que ça, c'est un show.
Donc, tu pars un an en tournée avec Sub. Là, t'apprends, tu rencontres d'autres Sandman.
Exact.
Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est un bon ou un mauvais Sandman?
Ben, c'est les oreilles. Puis moi je vois toujours ça aussi. Il faut t'écouter le band sur album parce que les fans écoutent l'album. Puis veulent entendre ça en live. T'sais. Fait que s'il y a des effets ici et là, faut t'y mettre. Puis faut que tu t'assures aussi que tu entends bien tous les musiciens parce que il y a peut-être quelqu'un qui capote sur le drummer, l'autre sur la basse, l'autre sur le guitariste. Fait que tu t'assures que tu entends tous les instruments comme il faut pour que la personne aime, ben tu sais, elle peut s'entendre son guitariste préféré ou peu importe. Puis, c'est ça, faut que tu t'arranges que t'entends tout bien les paroles quand ils chantent. Puis,
Et c'est de la job parce que je le sais pour avoir fait de la tournée avec les gars de Simple Plan, l'ingénieur de son, il commence à travailler très tôt. C'est quoi la première chose? T'aides pas à monter la scène, mais il faut quand même que la scène soit montée comme du monde pour toi.
C'est ça. Ben, ça dépend des tournées. Comme quand on fait des tournées en Europe, c'est souvent des tournées de club. Fait qu'il y a déjà un kit de son installé. Fait que tu rentres normalement vers 10h le matin, tu installes ta console. Les gars de Backline installent l'équipement sur scène. Puis là, fait que tu installes tes fils, les micros. Tu fais la balance de son. Tu t'assures que tout sonne bien dans la salle, partout.
Balance de son, là, le band n'est pas encore là.
Exactement. Tu fais un line check, tu t'assures que le kick est bon, puis s'il n'est pas bon, tu t'assures que tout sonne bien. Puis quand le band arrive, là, que ça sonne bien.
Ta balance de son que tu fais dans une salle, tu as toujours comme une toune en particulier que tu vas mettre, que tu connais, et donc puisque c'est ta chanson référence, ben tu vas voir si le kit de son.
Exact. Ben, moi, c'est The Ataris depuis des années.
C'est vrai?
Oh, ouais, c'est...
Quelle toune?
Pas
Boys of Summer?
Non, c'est cet album-là, mais c'est une des premières tunes, je me souviens pas du titre. Là.
Blue Skies, cet album-là?
Diary.
OK.
C'est ça?
Ça se peut. Moi, je te crois sur parole.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est une tune que tu connais super, super
bien. C'est tout le temps celle que je prends pour checker le pied. Mais aussi, à cette heure maintenant, avec les virtual soundcheck, je vérifie avec le... Tu peux enregistrer le concert de la journée d'avant, puis tu peux mettre le show sur les speakers sans que le band soit là.
Ah,
tu peux fine-tuner ton mix. Même si le band n'est pas là, tu peux écouter le système de son comme il va sonner un peu quand même pour la soirée. T'sais.
Puis évidemment, à tous les jours, ça change parce qu'un système de son est vraiment pas comme un autre. C'est quoi?
Des fois, il y a des shows dehors, des shows en dedans, des petites salles, des grosses salles. Fait que c'est tout le temps... faut que tu t'ajustes, tout simplement.
C'est compliqué?
Ben c'est l'expérience. C'est comme je te dis... Faut juste que tu écoutes avec tes oreilles puis que tu te fasses le mieux pour que ça sonne bien dans la salle.
Puis là, le band arrive, soundcheck, joue tout le temps de la même façon. Fait qu'eux sont vraiment là à ton service, entre guillemets, pour que tu sois capable d'ajuster leur son à ce qu'on t'a donné comme réalité cette journée-là.
Exact. Puis gros des bands aussi à Star qui n'aiment pas ça faire des soundcheck.
Okay.
Fait que la première tune du show, c'est let's go, puis tu y vas à fond. Là.
C'est fou parce que je t'ai déjà vu travailler, n'importe quel gars de son, tu sais, souvent. Je le disais, là, les yeux sont pas rivés sur le gars de son, mais si vous vous retournez, c'est pas juste de l'arranger le matin puis après ça de regarder ça rouler. Tu travailles constamment. Qu'est-ce qui est tout le temps en train de changer?
Bien, souvent, c'est l'acoustique. Quand tu fais la balance dans l'après-midi, il n'y a personne dans la salle. Puis là, quand tu arrives le soir, juste la température, mettons dehors, la température, l'humidité va faire changer la qualité du son. Il va y avoir moins de haute. Puis même quand tu fais un show, mettons, sans belle, il pleut dehors, le monde arrive avec un manteau de pluie, fait que c'est en plastique, ça sonne plus, il y a plus de haute. Le linge peut changer la qualité du son dans une salle. Là.
Attends, fait que disons, t'es à un show,
ouais.
Il fait beau, puis on va s'imaginer que tout le monde a un parapluie, là, tu sais.
Exact.
il se met à pleuvoir, tout le monde ouvre leur parapluie, ton son change?
Drastiquement. Ouais, drastiquement. Fait que tu t'ajustes à chaque fois, puis même au cours du show, même si c'était fini, tu sais, des fois dans la salle, la fin du show, le monde a transpiré plus, fait que c'est plus humide, faut que tu réajustes les autres, puis il y a plein d'ajustements à faire.
Et là, tu fais plus confiance à tes oreilles ou tes écouteurs? Je sais que les deux vont un petit
mes
peu...
Mes oreilles, 100% mes oreilles.
Ah oui? Ouais, ouais. Parce que souvent, je vois ça, un gars de son qui a ses écouteurs, là, qui est en train de checker, là, qui les enlève. Donc, il va se promener un peu. Donc, il y a les deux réalités, il y a les écouteurs et les oreilles.
Les écouteurs, c'est vraiment plus quand tu veux cibler un problème. Tu peux écouter en solo, mettons qu'il y a un problème dans le bass drum, tu peux écouter, OK, le micro est griche ou peu importe, ou tu veux écouter un truc en particulier, mais tu fais aux oreilles.
Moi, j'ai toujours dit, historiquement, quand j'ai des amis qui viennent voir des shows, je leur dis tout le temps, on va faire à côté du gars de son.
Exact.
C'est là que ça va sonner le mieux, parce qu'évidemment, c'est l'octet. Évidemment, exact. Donc, tu sais, toi, ta réalité, elle est là. Tu te promènes-tu dans la salle pour t'assurer que le gars qui est à 8e rangée dans les rouges, que ça sonne pas pire pour lui aussi?
Mais quand que je peux le faire, oui, que des fois, il y a tellement de monde que tu peux pas.
Ouais.
Mais oui, surtout parce que... C'est surtout un problème de sub, parce que quand tu te promènes, des fois, tu perds des subs à des places. Il y a comme des cancellations de phase et tout. Fait que oui, tu t'essaies de te promener, puis tu essaies de faire une moyenne du son en tant que tel. Là,
c'est ça que tu apprends au Cégep, parce que moi, cancellation de phase, là...
c'est sûr. Mais oui, t'apprends des choses comme ça, ouais.
Tu commences à travailler pour un groupe. Première chose que tu fais, j'imagine, c'est ça, t'écoutes l'album. Puis ta job, c'est théoriquement d'être capable de recréer ce que tu as entendu sur le disque live?
Exact. Puis tu parles aussi avec les groupes. Comme quand même, j'ai remplacé sur Good Charlotte, puis je suis allé voir le band. Il dit, bon, j'ai dit, est-ce que vous voulez que je mette tel effet? Puis les gars, ils trippaient parce qu'ils ont vu que j'avais fait mes devoirs, puis que je savais quelle tune avec quel effet. T'sais. Fait que moi, j'essaie toujours de recréer ce qui est sur l'album parce que c'est ça que les fans veulent entendre.
Et j'imagine que ça aide que tu fais aussi du travail en studio. Tu n'es pas juste un gars de son, parce qu'il y en a qui font juste du son live. Toi, quand tu n'es pas en tournée, d'ailleurs, on est dans ton studio présentement. Tu es en studio, donc tu les entends, je pense, que c'est ces petits détails-là
sur
l'album.
C'est sûr, ouais.
Tu as fait sub, tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais commencé, j'avais 19 ans.
OK.
19 ans.
Ça a été pendant un an, cégep. Prochaine étape dans ta carrière?
J'ai fait longtemps en sub. Après ça, j'ai fait Vulgaire Machin.
OK.
Capitaine Révolte, Vulgaire Machin. Après ça, Grimmskunk, qui m'a amené à faire les trois accords pendant... plein d'années, puis même, je recommençais à faire trois accords.
Tu fais encore les trois accords?
Exact. Quand je suis en tournée avec Simple Plan, je fais les trois accords. Puis les trois accords, on a fait un show, puis Jeff était là,
okay.
Puis il a entendu mon son, puis il a capoté. Fait que le lendemain, il m'a appelé, il a dit, on aimerait ça de t'avoir dans notre équipe. Je pense que l'autre gars, il s'en allait sur notre tournée, fait que ça a donné bien. Fait que j'ai commencé avec eux en 2011.
Okay.
Ça fait 12 ans, à peu près. Ouais, ça fait ça.
C'est ça. Un peu après moi.
Exact.
Évidemment.
Je suis arrivé, tu quittais, là.
Ben c'est ça. C'est pour ça que tu es finalement arrivé. OK, exact. Pat, ça va? Parfait. Là, je suis prêt. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, avec ce podcast-là, ça a vraiment été l'entourage de Simple Plan. Évidemment, c'est ma gang, c'est mes amis, c'est le monde que je connais. On n'a jamais fait de tournée ensemble, exact. Mais dans les 12 dernières années, on s'est croisés plein de fois. Et donc, pas d'audition. Jeff, il entend ton son.
Ben, puis... j'ai fait le show Metropolis pour la Fondation.
OK.
Puis ça a bien été. Fait qu'ils m'ont demandé pour le reste de la tournée. Puis...
Et là, j'imagine que c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi parce que faire du son, tu connais ça. Mais quand tu fais Grimmskunk, Vulgaire Machin, puis les trois accords, malheureusement, tu n'as pas tant besoin de passeport.
Exact. Là, c'est sûr que tu tombes à un autre niveau. Puis les salles aussi, tu passes de salles à 3-4 000 à des salles de 15-20 000, tu sais, là, facile. Puis on voyage partout sur la planète. On est déjà rendu. Mais moi, depuis que j'étais avec eux, je pense que je suis rendu à 58 pays. Hein, c'est fou. Là.
Incroyable.
Fait que ça a changé complètement ma vie, ça, c'est sûr.
Tu tripes-tu? T'aimes ça?
Toujours.
Parce qu'au Québec, je sais pas si c'est possible d'être un ingénieur de son à temps plein. Les tournées, c'est tout le temps comme jeudi, vendredi, samedi.
Bien, être une tournée au Québec, c'est facile. Parce que justement, dans la semaine, tu es chez vous, tu peux t'occuper de ta famille. Puis c'est juste jeudi, vendredi, samedi. C'est chanceux, tu sais.
Ouais.
Souvent, c'est vendredi, samedi. Puis les salles au Québec aussi, c'est plus des salles d'humoristes. Beaucoup de petits systèmes de son, des petites salles. Fait que tu t'ennuies vite. Tu sais, mettons, le plus gros show au Québec, c'est le Festival d'été de Québec.
Ouais.
Puis là, tout le monde, toutes les semaines, c'est leur rêve d'aller là, puis tout. Mais avec Simple Plan, c'est mon quotidien, le Festival d'été de Québec. Je fais ça tous les jours. T'sais, on fait des gros festivals. Fait que c'est le fun au Québec parce que c'est plus stable, tu peux avoir une vie plus facile. Mais tu vois, quand je refais les trois accords, après une couple de mois, j'ai hâte de partir.
Ouais.
C'est le fun parce qu'on est des super bons chums, puis tout. Mais j'ai hâte de refaire des gros salles, des gros pillés. Puis tu fais son devant 100 000 personnes. T'sais, t'as quand même le... le contrôle. Tu sais, si mettons Pierre, il me fait chier une journée, je peux te dire, touche te mieux. Puis, tu sais, ça, je le ferais pas. Mais tu sais, tu as quand même le contrôle un peu. Un soundman, c'est comme un peu un peintre, puis les musiciens, c'est la couleur, tu sais. Fait que c'est moi un peu qui décide la vibe, tu sais, dans un show. Si je veux, mettons, comme dans Jump, je sais que pour faire sauter le monde, tu mets un peu plus de basse, un peu plus de kick, ça va faire monter le monde. Il y a des tunes plus smooth. Tu peux jouer avec les émotions. Tu essaies de jouer un peu avec les émotions des gens durant le mix aussi.
Tu peux être plus créatif que simplement exact. Essayer de recopier ce qui se passe sur l'album. Là.
Exact. Oui, c'est sûr que je mets ma petite touche pareil. Là, on appelle ça de la dentelle. Tu rajoutes un peu sparkle là, sur le mix. Puis,
Je sais que c'est tough comme question, puis c'est tough se lancer des fleurs, mais. Qu'est-ce qui fait en sorte que justement que tu es un bon soundman comparativement à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça, c'est cette créativité-là? Parce que tout le monde est capable de jouer avec les pitons, puis j'imagine qu'il y a quasiment même des applications qui existent aujourd'hui qui peuvent répliquer des trucs.
Ouais,
toi, il y a une créativité dans ta job.
C'est sûr que créativité, puis ça, je pense que l'important, c'est ça, c'est d'être à l'écoute du groupe, de savoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, tu mets ta touche, puis tu sais, quand tu vas voir un show, puis tu vois le soundman qui a les bras croisés durant le show, ça va sonner à Rich. Mais tu sais, quand tu travailles tout le long du show, puis à chaque chanson, tu fais un peu d'automation, tu dis, OK, là, il y a un solo qui arrive, tu montes le fader à Jeff. C'est d'en faire un peu plus que le client demande. T'sais.
Fait que je sais que c'est pas ta réalité, mais est-ce que tu es en train de me dire que quand David Guetta, il gosse sur sa console, il fait vraiment de quoi?
Mais ça a été sorti présentement que les DJ faisaient rien.
Hein, oui.
Mais en show, c'est pas pareil. Ça, c'est des vrais musiciens, puis c'est pas une clé USB qui joue. Là.
Okay. Tu disais, man, c'est Festival d'été de Québec quasiment tous les jours, des festivals. Tu voyages d'un pays à un autre. Ça vient avec un pas pire lot de défis, j'imagine, comparativement ouais. à des tournées au Québec. Ça peut être quoi comme une journée tough dans ton monde?
Les journées tough, c'est surtout de gérer l'équipement qui arrive par cargo tous les jours. Fait que des fois, il arrive en retard. Fait que là, t'es là, OK, t'as juste 15 minutes pour t'installer, tu fais ton soundcheck, puis le show start, t'sais.
Wow.
Fait que des fois, c'est rough, mais c'est ça. Ça fait des grosses journées. C'est surtout quand, mettons, en Asie, on finit chaud à 10-11 heures le soir, t'arrives à l'hôtel à 2 heures du matin, tu te lèves à 5 heures du matin, tu t'en vas à l'aéroport, tu reflètes, tu t'en vas au load-in à 10 heures. Fait que c'est pas aussi de l'amour qu'on pense.
Oh, non, c'est
beaucoup, ça. C'est des grosses journées.
Puis quand il faut que tu fasses 115 minutes, il faut que tu sois rodé au point que tu peux quasiment le faire les yeux fermés. Là,
exact. Ben, ça fait 12 ans, puis où c'est que Simple Plan, on est quand même un low crew, fait que je me suis arrangé pour que tout se branche vite, facilement, puis que c'est plug and play.
Hein. Tu dis low crew parce que je sais que Simple Plan ne voyage pas. Frenchie, à cette émission, me disait que Arcade Fire sont comme 70 en tournée.
Exact.
Simple Plan, c'est genre 11. Incluant le band.
Exactement. Exactement. Ça. Fait que c'est vraiment, chaque personne porte plusieurs chapeaux.
Ouais. Et donc, OK, c'est low crew, faut que ça soit facile. Ça veut dire quoi comme équipement quand tu pars en tournée, surtout justement si t'es en Asie et tout ça, puis t'as pas le camion qui te suit, t'as pas l'autobus?
Bon, on est quand même chanceux, c'est quand même un gros groupe, fait qu'on a 4 palettes qui nous suivent partout.
Okay.
Fait que j'ai quand même on a une console de moniteur.
Tu te promènes avec ta console? Non, de moniteur.
De moniteur, ouais, c'est une petite console. Les seuls trucs que je loue d'un sens, c'est la console de son en avant, le système de son, puis le backline.
Puis ça, est-ce que tu peux avoir des demandes?
Oui, j'ai une liste, puis c'est tout le temps un peu les mêmes consoles. Qu'on a, mais quand tu arrives en Asie, comme au Vietnam, des fois c'est pas disponible. Fait que là, tu prends
ce qu'il y a.
Tu prends ce qu'il y a, puis tu espères que ça marche.
Ça arrive-tu des fois que tu regardes ça, puis tu fais comme OK, j'ai aucune idée, c'est quoi qu'il y a devant moi?
Non, mais c'est surtout de la réparation. Comme on a fait un show en Inde, puis il y a une boîte de patch, puis j'ai jamais vu une boîte de patch. C'est comme si ça avait traîné une semaine dans le fleuve Saint-Laurent. Elle était rouillée, là. Fait que tu sors ton fer à souder, puis tu refais des fils.
Hein?
Oh, ouais, tant que ça, là.
Tu te promènes avec un fer à souder?
Oui, on a quand même un strict minimum pour réparer des trucs. Puis tu sais, justement, ce show-là, ils font pas souvent des shows en Inde. Puis le premier coup de sub du show, soundcheck va bien, mais durant la journée, ils ont branché l'éclairage du site sur la génératrice du son. Fait que le premier coup de somme, puis tout a parti. Fait que là, essaie de trouver le problème, puis finalement, ça a pris 15 minutes, puis là, ils ont trouvé le problème, puis le show est parti.
Sans me nommer de nom, parce que tu travailles avec 3 accords, Simple Plan, j'y vois les gars dans ma tête. Y en a-tu un qui est plus tough à faire bien sonner que d'autres? Sans nommer de nom, y a-tu un qui tu fais comme, ouais, celui-là, il me donne toujours un petit peu plus de fil à retordre?
Ben, je te dirais, mettons, comme les 3 accords présentement, là, on tourne avec 5 musiciens.
Oui.
Fait que c'est le challenge un petit peu plus gros. Simple Plan, j'ai genre 26 inputs, puis 3 accords, j'en ai 48. Fait que c'est sûr que 3 accords, même si c'est moins rock, puis tout, c'est plus challengeant.
C'est comme jongler, t'as plus de boules avec lesquelles
exact,
tu dois jongler.
Exact. Fait que tu sois un petit peu plus vite dans tes trucs. Mais en général, c'est tous des super bons musiciens, puis ça va bien.
quel politicien! Tu le disais, tu portes plusieurs chapeaux au sein de Simple Plan. Moi, le concept de ce show-là, je voulais recevoir un ingénieur de son, je voulais recevoir un gérant de tournée, je voulais recevoir un gérant de production. Toi, t'as fait les trois. Fait que j'ai les trois jobs avec toi. Gérant de tournée, t'as fait ça parce que quoi? Parce qu'il manquait du monde? Parce que ta passion, c'est le son, là.
Exact. Mais les gars, je les connais depuis longtemps. Puis des fois, le tour manager, nous autres, il est resté en Angleterre, il reste à LA. Quand on a un show au Québec, ça sert à rien de le faire venir ici, fait que moi je le remplaçais. Fait que je le remplis quand même souvent. Fait que tu vois, en Asie, on est parti en Asie récemment. Premier show, le tour manager il a fait une crise d'appendice. Ouais. Fait que là, j'ai remplacé pour le restant de la tournée. Fait que tu sais, je connais les gars, je sais comment ça marche, je suis capable de gérer les horaires. Fait que
c'est quoi donc exactement tour manager? C'est.
Tour manager, c'est tu t'arranges pour
comme la nounou?
Oui.
Des fois.
Avant, c'est juste de préparer que tout soit correct. Fait que tu appelles le promoteur, tu t'assures que quand on va arriver, il va y avoir une van qui va être là, qui va pouvoir nous amener à l'aéroport, de booker les vols, les hôtels, s'assurer que tout le monde mange, qu'il y a un catering. Puis un production manager, c'est plus lui qui, tu sais, mettons, je fais un advance, justement avec le cargo. Mais okay. Je m'assure qu'il y a une compagnie qui va venir chercher l'équipement, qui l'amène après ça à l'autre salle, que je m'assure que les vols puis le carnet du gear voyage aux bonnes places.
Carnet du gear, c'est parce que quand tu te promènes avec genre 56 pièces d'équipement, tu peux pas juste arriver
dans un pays
puis traverser des frontières avec tout ça.
Ça prend comme un passeport du gear, qu'il appelle ça un carnet ATA. Fait que tu t'en... t'es aux douanes, tu le fasses stamper, puis t'es sûr que des fois, ils veulent les vérifier, puis là, c'est long, faut que ça marche une numéro de série. Puis, fait que ça, puis tu saches aussi que quand t'arrives à la salle, qu'il y a le bon kit de son, l'éclairage, tout le kit.
Faut le savoir, hein? C'est, ouais. Tu te racontes ça, c'est compliqué, puis c'est justement cette réalité-là que les gens ont aucune idée à quel point ça a été tough. Puis, tu sais, des shows qui sont annulés dernière seconde, des fois, d'artistes américains qui veulent venir ici, des fois, c'est peut-être ça les problèmes. Des fois, il y a des artistes qui peuvent pas rentrer aux douanes, exact, parce qu'ils ont des...
Mais des fois, surtout présentement, depuis la COVID, c'est devenu une réalité que le cargo a doublé de prix.
Okay.
Puis souvent, les compagnies aériennes perdent le stock. Fait que il y a des groupes qui voyagent encore, mettons, ils ont 30 pieces, mais ils vont check-in ça à l'aéroport avec leur équipement, avec l'avion. Puis là, tu arrives à la destination, puis il manque la moitié du gear. Fait que là, tu peux pas faire de show.
Fait que t'as pas le choix... Donc, avec du cargo, c'est plus sécuritaire?
C'est plus sécuritaire, sauf que c'est extrêmement cher. Exactement, mais sauf que t'es sûr que tes palettes vont arriver à la bonne place au bon moment.
Je pose la question, je pense que je connais la réponse, mais ta job préférée des trois que tu fais, c'est faire du son?
C'est sûr, c'est faire du son, oui.
Parce que quoi? Parce que gérant de tournée, c'est du gossage?
C'est du gossage, puis tu t'occupes... Tu t'occupes de d'autres personnes. Quand telle personne veut aller jouer au golf, il faut que tu t'arranges pour qu'elle joue au golf.
Ah oui, c'est ça. OK. Fait que gérant de tournée, Chuck veut aller jouer au golf. C'est toi qui vas y booker un terrain de golf?
Oui, mais moi, Chuck, je le connais bien. Fait que quand je suis gérant de tournée, je pré-book des parties de golf. Fait qu'il est super content.
Hey,
tu t'arranges pour que tout le monde soit heureux tout le temps. T'sais.
Et là, ensuite de ça, ben, quand tu n'es pas en tournée, tu es ici dans ton studio ou tu es producteur, est-ce que c'est ton genre de plan de retraite, ça? Parce que j'imagine que la tournée, maintenant que t'es papa,
oui.
C'est un petit peu plus tough, le partir.
C'est plus tough, surtout que tu sais, t'es encore jeune. Fait que là, quand je pars, elle dit « Papa, reste à la maison. » Fait que ça fait toujours un peu le cœur.
Ouais, ça brise le cœur.
Mais c'est un plan... j'ai toujours fait ça depuis que j'étais jeune aussi, faire des albums. J'étais chanceux de faire les deux en même temps. Fait que non, mais j'aime ça faire les deux quand je reviens. T'sais, c'est un autre côté créatif, c'est ça, tu crées de la musique, c'est encore plus créatif. C'est-à-dire, quand t'es soundman, t'es plus... Tu crées aussi, mais c'est plus what you get. C'est ça que tu reçois. Je sais pas comment dire ça.
Non, mais en fait, c'est parce que toi, en studio, t'es capable de travailler sur un produit, tandis que quand t'es en tournée, ben tu travailles avec un produit fini. Puis,
exactement.
Oui, tu peux le modeler à ta façon, mais
exactement. Quand je reçois des tracks pour le mixer, ben, je peux faire ce que je veux avec. Là,
tu travailles avec qui au Québec? J'imagine qu'il y a plein de bandes qu'on connaît que tu as produit.
Trois accords. Ben, surtout dans le milieu punk rock, trois accords. J'ai fait des albums de Sub, Vigamachin aussi, Back in the Days. comme Fred disait tantôt, Noé Talbot. Ouais. Je travaille beaucoup avec Jesse Fush depuis 20 ans. Fait que j'ai fait les extérieurs back in the days.
Wow. Ouais. Moi, quand j'ai travaillé à Musique Plus, 2008 à 2012.
Ouais.
Donc, justement, là, c'était les belles années de Jesse, extérieurs, ouais. Lui avec son sac à dos. Exact. Sur la scène.
Je pense qu'une des premières fois qu'on s'était vu, tu m'avais contacté parce que tu voulais faire une entrevue avec les trois accords. Fait que tu m'as dit, hey Frank, tu peux avoir une plug avec les trois accords.
Ça se
peut.
T'es
venu à l'Astral, à l'Astral faire une entrevue avec les trois accords. Mais tu savais Musique Plus.
Dans le temps de Musique Plus, ouais. Ça fait un bout. C'est fou parce que c'est un petit monde.
Ouais, ouais.
Et donc, j'imagine justement que le fait que tu travailles avec les trois accords, que tu travailles avec Simple Plan, ton numéro, il est pas pire en haut du Rolodex quand il y a un nouveau band qui veut quelqu'un. Là.
Exact, exact. Ouais. J'étais chanceux là-dessus. Ouais.
Ça te donne le luxe de choisir. Qu'est-ce que tu fais? T'écoutes les tunes?
J'écoute les tunes, puis si j'aime ça, let's go, on y va, puis j'embarque dans le projet.
Je pense que si Simple Plan lance un album, que t'aimes les tunes ou non, tu vas partir en tournée avec eux parce que ça fait 10 ans, puis parce que ben, c'est le fun de faire le tour du monde.
Oui.
Mais y a-tu ce côté-là quand t'écoutes l'album que tu fais comme « J'espère que je les aime, ces tunes-là? »
Ouais, mais il y a toujours des tunes que t'aimes sur un album, là, fait que... Je m'en fais pas là-dessus.
Qui aide plus? T'as Frank Joly, le producteur en studio. T'as Frank, l'ingénieur de son. Est-ce que ton travail en studio ici à Montréal aide plus l'ingénieur de son ou l'ingénieur de son aide plus le producteur?
Je pense à cette heure, l'ingénieur de son live aide plus le producer.
Pourquoi?
Je sais pas, j'ai plus de contacts. Je fais mes contacts à cette heure en show. Que quand je fais des shows, là, j'amène les bands en studio.
OK. Mais côté technique,
du côté technique, c'est deux mondes différents.
C'est comme un diagramme de Venn un peu. Il y a un milieu qui se touche, mais c'est deux mondes.
Mais c'est vraiment, mixer un album, c'est complètement différent que mixer un album live. Okay. Mixer un band live. C'est deux techniques différentes.
Puis si tu mixes un album live, tu sais, comme chaque. Il y a plein de bands qui ont lancé des disques studio, c'est là où comme tes deux mondes se touchent un petit peu plus.
Oui, c'est ça.